Bonsoir et bon début de semaine à tous. 24 avril 90, 24 avril 2023, 33 ans depuis que le maréchal Mobutu avait décrété la fin du monopartisme et instauré le processus de démocratisation du pays. À ce jour, la RDC compte plus de 500 partis et regroupements politiques et dispose d'une constitution votée par référendum. Le pays a aussi connu trois cycles électoraux et la première passation pacifique du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Quel bilan peut-on dresser du processus de démocratisation en RDC 33 ans après son lancement? Nous en parlons ce soir avec le professeur Jacques Joly. Il est professeur de droit constitutionnel et député national, vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est membre du parti politique MLC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Jean Bouillou, professeur de droit, il est député national élu de Kiabalo. Il est cadre du parti politique PPRD, membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Maître Jean Bouillou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kiabamba, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
À Kinshasa, vous nous trouvez sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radioocapi.net.
33 ans après le lancement du processus de démocratisation en RDC, le député provincial du Lualaba, André Kakwata, estime que le pays connaît un recul. Il en veut pour preuve l'instauration de l'état de siège dans certaines provinces du pays où l'on observe la restriction des libertés fondamentales. André Kakwata l'a déclaré au micro de Jean Gandou.
Un état de siège, c'est comme qui dit, la démocratie est mise en veilleuse, d'autant plus que les assemblées provinciales n'œuvrent plus. Les gouverneurs élus, ce ne sont pas eux qui sont en fonction. On a des policiers comme des bourgmestres, maires de la ville, et on a des militaires comme des gouverneurs. L'administration est entre les mains de la police et l'armée. Vous voyez que la démocratie, soit elle est stagnante, ou soit elle a reculé. La République démocratique du Congo est en danger. Et quand il y a un danger, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de société civile, il n'y a que Congo. Unissons nos idées, nos forces pour récupérer la République démocratique du Congo qui est en danger. Comment est-ce que le maréchal Mobutu a pu surmonter ce complot de la balkanisation? Comment est-ce que Mouzé et Kabila a pu surmonter ce complot de la balkanisation? Comment est-ce que le raïs Joseph Kabila a pu surmonter ce complot de la balkanisation? Et vous allez accepter à ce jour que ce complot se réalise. Les territoires aujourd'hui sous occupation de EAC sont sous l'administration de qui? Sont sous autorité de qui?
Professeur Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel et député national, vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Votre réaction sur le son du député Kakwata que nous venons de suivre, il estime que 33 ans après, le pays connaît un recul. Il en veut pour preuve l'instauration de l'état de siège dans certaines provinces de la RDC où l'on observe la restriction des libertés fondamentales.
Bon, je voudrais d'abord d'emblée exclure la question de l'instauration de l'état de siège, qui pour moi est une question circonstancielle liée à l'état de belligérance et qui sévit, n'est-ce pas, sur cette partie du territoire depuis plus de trois décennies. L'honorable Kakwata, avec qui j'ai partagé les temps au Sénat, c'est que la violence et armée qui sévit dans le nord Kivu, dans le sud dans l'Ituri, et même dans une partie du Katanga et du sud Kivu, n'est pas nécessairement liée à la question démocratique. Donc c'est une situation exceptionnelle, c'est une situation circonstancielle qu'il ne faut pas absolument lier avec la problématique centrale de notre débat d'aujourd'hui, qui est la question de l'instauration d'un état des droits démocratiques au cœur de l'Afrique, et cette question qui nous préoccupe, comme vous l'avez dit, depuis 33 ans. Et ce processus lancé officiellement le 24 avril 1990, aujourd'hui, la question que vous nous posez, c'est de faire les bilans. Donc, il faut, n'est-ce pas, faire un distinguo sur la situation des violences, même dans les États démocratiques, il naît des foyers d'éruption des violences qui appellent une réponse constitutionnelle, d'ailleurs, à la gestion de cette question. Voilà ce que je peux vous dire sur le propos qui ne sont pas à propos de notre collègue Kakota.
Alors, professeur, vous, quel bilan vous dressez du processus de démocratisation en RDC? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que c'est, en fait, du surplace? Est-ce que le pays connaît un recul?
Bon, il faut dire d'abord que la question d'un projet d'un État démocratique sur l'espace qu'est le Congo, c'est une question que je dirais génétique à notre pays. En prenant comme identité république démocratique du Congo, nous avons comme vision, je dirais axiologique, mais comme vision finale, d'établir au cœur de l'Afrique un État des droits démocratiques. Nous avons eu des difficultés depuis 1960 à instaurer cette démocratie. On va connaître une très longue période de glaciation dictatoriale pendant 32 ans et le 24 avril 1990, nous avons relancé le processus. Qu'est-ce qu'il faut dire comme bilan? Il faut d'abord, comme vous l'avez dit, souligner la volonté inébranlable du peuple congolais d'instaurer cette démocratie. On a connu des moments forts de résistance, de combat de toute la société congolaise pour que M. Mobutu puisse reconnaître les droits des Congolais à être dirigés démocratiquement. Et ça a été proclamé officiellement, solennellement, le 24 avril 1990. Et depuis lors, l'évolution donne à la fois des signaux que je peux appeler positifs, mais aussi des inquiétudes et des signaux négatifs. Sur le plan positif, on peut dire que depuis la proclamation de ces choix démocratiques, nous sommes passés par des périodes de conférences nationales et d'autres qui ont pu nous amener même à des guerres, comme on a pu le voir, pour combattre cette dictature. Et finalement, nous allons avoir notre première constitution d'éthique démocratique, du moins post-indépendance, après les deux premières constitutions, notamment celle de 64, parce que la loi fondamentale, c'est une loi provisoire, 64 et 67, qui a été un échec. Nous allons avoir la constitution du 16 février 2006. Mais nous avons passé une très longue période de transition, plus de 14 ans, dans des discussions, d'abord des violences, et puis les premiers cycles électoraux qui va asseoir l'ordre politique et démocratique va avoir lieu en 2006. Et depuis lors, nous sommes au quatrième, nous allons peut-être aller au quatrième cycle électoral, ce qui est déjà cette volonté d'asseoir l'accès au pouvoir par des élections durant quatre cycles. Et bien sûr, on va avoir ce qu'on appelait une alternance en 2018. Si nous observons la scène politique de l'Afrique centrale, nous sommes donc un État qui tente d'instaurer la démocratie par voie des élections.
Des élections qui sont toujours contestées.
Hélas, hélas, c'est ce que nous allons dire dans les contraintes ou dans les défis ou dans les difficultés. Donc nous avons organisé les élections, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Vous savez, tout autour de nous, il y a des pouvoirs qui ont fait 32 ans, qui ont fait 40 ans, qui ont des élections à un seul candidat qui obtient 98%. Vous pouvez parler du Rwanda, de l'Ouganda et des autres pays. Donc nous avons organisé cela. Mais ce qui est surtout important pour moi, c'est la volonté du peuple congolais, quelles que soient les difficultés, d'aller vers un État démocratique. Et on le voit durant tous ces cycles électoraux, parfois difficiles ou contrastés, comme vous l'avez dit, le peuple vient toujours s'enrôler, avoir sa carte d'électeur et être déterminé, n'est-ce pas, à asseoir cette démocratie. La démocratie qui est une conquête permanente, c'est une expérience, ce n'est pas un événement. Et c'est vrai que ça dure 33 ans, c'est dommage, mais il y a cette volonté d'y aller.
Parlons des points négatifs, professeur, très rapidement.
Sur le plan négatif, et je peux appeler ça un phénomène des sporulations, comme on dit en sciences politiques, c'est-à-dire un stationnement qui peut être négatif. Je vais pardon prendre le premier élément, le nombre de partis politiques. 1000 partis politiques pratiquement, ça peut être un signal de la vitalité démocratique, mais ça peut être aussi le signe de l'obscurantisme politique. Ces partis politiques ne sont pas des lieux d'épanouissement des démocraties, mais ce sont des lieux de culture autocratique et népotique du pouvoir. Ça, c'est un élément, ce qui m'amène à dire que, en fait, le texte veut que nous puissions asseoir une démocratie. Le peuple, dans son état, c'est-à-dire la passion profonde, veut une démocratie, mais il y a encore une forte culture antidémocratique, une culture tribale, une culture autocratique, une conception du pouvoir qui n'est pas démocratique, de sorte que on ne voit pas des signaux de transformation positive d'un état de droit démocratique. Mais, comme je l'ai dit, c'est un effort transformationnel de conversion collective qu'il faut faire et que pour le moment, eh ben, nous aurons un quatrième cycle qui risque d'être aussi un cycle difficile, comme quelqu'un dirait glissocratique, c'est-à-dire que ne pas respecter le temps prévu par la Constitution, sortir de la Constitution pour trouver encore ce qu'on appelait des accords ou conventionnalisme destructeur, c'est-à-dire que chaque fois, au lieu d'appliquer les textes, nous sortons des textes, nous faisons des accords, nous faisons des partages de pouvoir. Donc, à résumer, la scène politique congolaise est tiraillée entre une volonté populaire d'asseoir un état des droits démocratiques et une culture de ce qu'on appelait une pseudo-élite qui est toujours ancrée, et on le voit à travers le parti politique, vers une forme d'autocratie, de conservation atavique du pouvoir et de fausser la démocratie par une certaine banalisation de la culture démocratique avec des élections plus ou moins contestées et contestables.
Est-ce que ce processus porte bonheur aux Congolais?
Madame,
en une phrase, depuis ça fait 33 ans, est-ce que vous estimez que ça a porté ou ça porte bonheur aux Congolais?
Le bonheur est une notion très relative. Est-ce que 33 ans, c'est suffisant pour apporter le bonheur par la démocratie? Ça peut se faire. Quand on voit des pays comme l'Afrique du Sud, qui n'ont pas entendu 5 ans pour asseoir une démocratie. Mais il faut savoir que la démocratie est une démarche qui n'est pas simplement juridique, elle est anthropologique et sociologique. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que l'acteur politique congolais, le politique congolais, s'est converti aux valeurs d'un état de droit démocratique, c'est-à-dire un état qui croit que c'est le peuple, qui doit désigner les gouvernants, et on ne doit pas simplement être issu du peuple, mais la gouvernance globale doit être orientée vers le bonheur du peuple. Et là, le combat est encore à mener.
Maître Jean Bouillot, professeur de droit, vous êtes député national élu de Kabalo, vous êtes cadre du parti politique PPRD, membre du Front commun pour le Congo, 33 ans après, votre bilan.
Oui, merci madame. Je voudrais avoir un tout bilan à partir d'abord du contexte dans lequel le président Mobutu avait donné son discours le 24 avril 1990. Il faut observer quel était le contexte international à ce moment-là. Il y avait ce cadre mondial marqué par la perestroïka, une vague mondiale qui a commencé vers l'Europe et qui a déferlé vers l'Afrique, l'ancienne Yougoslavie qui a éclaté, ensuite par-ci par-là, la France en est mêlée avec le discours de la Baule, et finalement, la vague a atteint l'Afrique, commencée par le Bénin, et ça s'est mué à une sorte de volonté de renverser les dictatures qui étaient implantées et qui étaient jugées implantées par la bénédiction des pouvoirs occidentaux et qui travaillaient pas, selon beaucoup, dans l'intérêt de la population. Alors cette vague a amené chez nous au Congo notamment la question de savoir si Mobutu allait partir ou pas. Lorsqu'on voit la conférence nationale présidée alors par Monseigneur Monsengo, des évêques avaient été associés d'ailleurs à ces mouvements un peu partout en Afrique, eh bien l'objectif du peuple quand nous allons à la conférence nationale, c'était l'idée de faire partir Mobutu. Mais il se fait malheureusement que les débats et les différentes discussions et le processus qui a été assez long n'a pas fini par faire partir Mobutu, a fini plutôt par le maintien de Mobutu et, malgré tout, une certaine reconnaissance des droits à l'opposition, à la société civile et même, de manière générale, au Congolais. Le MPR, qui était parti unique, va alors, à travers le discours de Mobutu, premièrement éclater et puis encadrer en disant il y aura un parti politique, le MPR, avec ses petits frères, ses deux petits frères, comme on l'appelait. Et cette division n'avait pas été approuvée par l'opposition, qui a réclamé que les Congolais aient la liberté de créer les partis politiques. Et vous connaissez vous-même le déferlement de partis politiques. Et j'entends le professeur Ndjoli, merci professeur, de parler même de plus de 1000 partis politiques. Je croyais qu'on en était encore à 700, mais voilà qu'on est déjà au-delà de 1000. Mais alors, ce processus de mettre fin à la dictature de Mobutu a été accompagné par une volonté bien précise. C'est notamment la volonté de faire venir un régime qui accepterait d'autres partis politiques. Un régime qui ouvrirait au multipartisme notamment, un régime qui ouvrirait également aux libertés civiles. Et je pense que la société civile congolaise naissante à cette époque, avec des ligues de droits de l'homme comme la ZADE et autres, ce sont des mouvements qui ont milité en faveur d'une sorte de libéralisation du pouvoir. Et plus tard, ce mouvement, lorsqu'on arrive à des discussions politiques, il va muter vers une volonté de partager le pouvoir, de faire en sorte que le pouvoir ne soit plus jamais dictatorial. Et donc, le mouvement parti de la Conférence nationale, sans totalement réussir à décrocher tout ce qu'il voulait, a peu évolué jusqu'au, évidemment, à la guerre venue du Rwanda, avec le déferlement de réfugiés. Je crois que le patriarche Kengo Wadondo en a parlé récemment, toute la pression qu'il a subie à l'époque. Et finalement, tout ce mouvement militaire a abouti par créer un mouvement militaire vers le Congo, qu'on a appelé l'FDL, qui a considéré que finalement la Conférence nationale n'avait pas abouti. Il fallait absolument faire partir Mobutu par la force, et c'est ce qui est arrivé.
Mais donc, après sinon, toutes ces étapes, Maître Jean Bouliou, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que la RDC est réellement démocratique?
Non, justement, madame, je rappelle cet historique pour montrer comment aujourd'hui nous sommes en recul. Parce qu'à Sand City, nous avons voulu un pouvoir présidentiel qui ne devait pas être fort. Nous l'avons réparti entre 4 vice-présidents. Et le président de la République ne présidait pas le conseil de ministres, ou du moins quand il le présidait, il n'avait pas la parole. Ce sont les 4 vice-présidents qui, chacun présidait une commission, qui avaient la parole. Comme pour dire que le débat au sein du conseil de ministres n'était pas focalisé autour d'une adresse d'une personne. Le débat était focalisé autour des thématiques issues des 4 commissions, et chaque commission était présidée par un vice-président. Et donc, on est parti dans ce consensus en disant « Nul ne doit prétendre détenir plus de pouvoir que d'autres ». Alors, si je m'en ramène à la situation d'aujourd'hui, nous sommes à l'opposé. Nous sommes à l'opposé parce que aujourd'hui, le chef de l'État a récupéré l'essentiel des pouvoirs, y compris d'ailleurs sur la justice. Je dis, il y a un recul important. Et je pense que le professeur Bob, qui était aussi, qui nous accompagnait dans ce processus, Bob Kabamba a eu du mal à la rédaction de cette constitution, tellement elle mêlait des choses parfois contradictoires. Et dans la gouvernance après, quand Joseph Kabila a voulu faire revoir cette constitution, il a dit non, c'est pas ma constitution. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette constitution qui était issue du consensus des différentes forces congolaises est en train d'être bypassée petit à petit pour instaurer la décision d'un seul. Et c'est ça le danger. Et c'est là le bilan négatif que je pourrais rappeler. Je peux également dire que le négatif, et partager un peu le point de vue du professeur Ndjoli, le négatif est également sur le plan économique. Quel a été le résultat de cette, démocratie? Eh bien, il y a eu des avancées, certes, en ce qu'on a reconnu l'opposition, en ce que on a pu accepter les associations qu'elles s'expriment, les syndicats, en ce qu'on a réaffirmé dans la nouvelle constitution ne plus rentrer au parti unique. Ça, effectivement, ce sont des avancées. Mais sur le plan économique, sur le plan, du fonctionnement socio-économique, nous n'avons pas réussi à réduire la pauvreté. Nous n'avons pas réussi à sortir l'économie, la gestion budgétaire nationale des mains de la classe politique qui parfois disons, abuse de la consommation de cet avoir national au détriment de son propre peuple. Nous n'avons pas non plus réussi, il faut le dire, à redresser une à faire d'une monnaie nationale, notre monnaie nationale, une monnaie forte. Donc économiquement, nous n'avons pas non plus beaucoup avancé. Mais je note pour moi, et pour ma part, une permanence qui caractérise et Lumumba, et Mobutu, et Mzé Laurent Désiré Kabila, et le président Joseph Kabila, et aujourd'hui le président Tshisekedi, c'est que la volonté des pères de l'indépendance de garder le Congo uni, prospère et pays fort, l'unité a été maintenue. Et c'est de la volonté de tous ces présidents qui ont précédé. Malheureusement, cette unité se trouve à nouveau aujourd'hui contrariée par ces rébellions qui ont occupé encore des territoires à l'est. Et donc, je dirais en conclusion qu'il s'agit d'un processus qui continue, mais qui accuse beaucoup de ratés aujourd'hui, parce qu'on ne s'en remet pas aux options fondamentales qu'on n'arrive même pas à dégager. On ne s'en remet pas à la volonté des pères de l'indépendance de former un pays uni et fort. Et je crois que l'orientation doit aller vers une réflexion, pas seulement électorale. Nous avons un cycle électoral, c'est positif. Mais qu'est-ce que l'élection apporte? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord un consensus national avant d'en décider d'aller aux élections? Quels sont nos fondamentaux dans le pays pour que les élections aient un sens? Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci, madame.
Professeur Bob Kibamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Avant de nous dresser votre bilan à vous, 33 ans après le lancement du processus de démocratisation en RDC, cette émission est aussi pédagogique. De nombreux auditeurs nous suivent aussi pour apprendre. Professeur, quels sont les principes des bases de la démocratie?
Alors, le principe des bases de la démocratie, c'est assez simple. En fait, c'est le principe de séparation de pouvoir qui a été codifié dans un texte, et cette codification dans le texte, généralement, c'est dans la Constitution. Séparation de pouvoir entre, d'une part, ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, c'est-à-dire ceux qui sont en gestion, en train de gérer l'État. Il y a aussi le pouvoir judiciaire, qui est en charge de pouvoir réguler et de pouvoir suivre en sorte que le fonctionnement de l'État respecte bien les textes qui ont été adoptés. Et on a aussi le pouvoir législatif qui a comme objectif de pouvoir arriver à mettre sur la table des textes qui permettent le fonctionnement d'un État. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on pourrait appeler des garde-fous qui sont des principes qui sont contenus dans les principes de la démocratie, qui est des garde-fous notamment qui concernent la liberté d'association, la liberté de presse, etc., qui sont aussi des éléments importants qu'on prend en considération dans la démocratie. Et voilà un peu en résumé, puisque c'est tout un cours que l'on donne à ce sujet, qui a été sous base du livre de Tocqueville, qui a essayé de synthétiser le concept de démocratie, et surtout dans la fonctionnalité de ces trois principes avec la séparation des pouvoirs, avec les trois pouvoirs.
Alors, au regard des principes que vous venez d'énoncer, professeur, qu'est-ce qu'on peut dire du processus de démocratisation en RDC 33 ans après?
Oui, madame, donc, il faut bien comprendre, c'est-à-dire pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut bien remettre ça dans le contexte. Le Congo, comme il existe comme État, c'est un pays qui a été fabriqué et qui est né de la colonisation d'une part de Léopold II, ensuite des Belges. Alors quand on regarde comment le système a fonctionné, c'est un système qui était basé sur trois éléments fondamentaux. On a l'économie qui est indispensable pour faire vivre un État. On a l'administration et la force publique, qui sont des éléments qui aident à consolider l'emprise du colonisateur sur le territoire. Et enfin, on avait l'Église qui avait comme mission la santé et l'éducation. Or, quand on en essaie de voir, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans ce qu'on peut appeler un régime militaire. C'est un régime fort qui était pendant la colonisation, puisque la liberté était réprimée, puisque tous étaient consolidés vers un seul objectif qui était de nourrir donc la métropole. À l'indépendance, lorsqu'on parle maintenant de l'indépendance, la structure Congo telle qu'elle existait, elle est toujours une structure autoritaire, elle est une structure militaire. Et les difficultés qu'ont eues préalablement, tout de suite après les indépendances, puisque tout simplement la structure Congo telle qu'elle était, elle était incompatible avec une gestion, on va dire, de principes qui sont différents de sa genèse. Et d'où le coup d'état de Mobutu qui réussit, puisque Mobutu, qu'est-ce qu'il fait? Mobutu ne fait que perpétrer l'état colonial. On remplace la métropole par Mobutu. Et donc toute la dynamique qui est au niveau de l'état Congo, maintenant, se retrouve au niveau Zaïre, uniquement axée sur Mobutu. Et cette consolidation va permettre justement à Mobutu de pouvoir rester pendant autant d'années au pouvoir, et quasiment sans partage, tout comme c'était le cas pendant l'époque coloniale. Et on a rappelé tout à l'heure, le collègue a rappelé tout à l'heure, le fait que le contexte international a changé, et ce contexte international a influé sur tous les régimes dictatoriaux, tous les régimes forts, tous les régimes militaires qu'il y avait un peu partout en Afrique, même en Asie, même en Amérique latine, pour passer vers une démocratisation. Mais, ce qui est toujours aussi important à souligner, la structure Congo telle qu'elle était au niveau de l'époque coloniale, cette structure n'a pas beaucoup évolué. Je m'explique, lorsque on regarde par exemple la part de l'église, vous vous souviendrez qu'à un moment donné, Mobutu s'est attaqué à l'église et on a banni les prénoms chrétiens, on a banni toute une série de choses qui étaient le monopole de l'église, on n'a plus eu le droit d'avoir des prénoms chrétiens, mais on avait maintenant des prénoms congolais, puisque tout simplement à ce moment-là, Mobutu s'est rendu compte que l'église, il avait du mal à avoir un contrôle sur cette église. Et en ayant du mal à avoir le contrôle sur cette église, va pousser Mobutu à réduire les prérogatives de cette église. Et c'est la même chose lorsque l'on commence à parler maintenant de la démocratisation. Vous allez voir que c'est encore une fois par l'église que la contestation est amenée pour pouvoir réclamer l'application de la démocratie. Et on a disloqué, donc les trois piliers que je vous ai donnés tout au début sont disloqués et nous arrivons à ce qu'on ait un État décomposé, un État presque en faillite comme on l'a actuellement en RDC. Or, la conséquence, lorsque l'on parle de démocratie, dans un État en délitement, ce qu'il y a comme conséquence, c'est que une démocratie dans un État en délitement fait en sorte maintenant que on se replie sur soi, et le repli sur soi dans le contexte congolais, ça veut dire repli sur la tribu. Et lorsqu'on se replie sur la tribu, on devient l'homme politique, on devient le chef coutumier, on devient l'entrepreneur, on fait vivre la tribu. La tribu va vivre à travers vous. Et pour concrétiser cet état de fait, on crée des partis politiques. Et alors là, nous avons 1000 partis politiques, alors que on a 450 tribus. Alors, vous imaginez ce que ça veut dire en termes maintenant de représentation, et en termes de projection, et en termes même de... qu'on peut parler de démocratie. Moi, je ne pourrais même pas dire que les élections avec tous ces partis-là, c'est la démocratie. Non, ce n'est pas de la démocratie. C'est uniquement du localisme, c'est uniquement du tribalisme. Il s'est traduit au niveau politique. Et donc, on n'est pas véritablement dans un contexte où on va dire que la démocratie s'est ancrée en RDC. Et la démocratie, je dois encore vous rappeler, la démocratie, ce n'est pas que les élections. Ce n'est pas que les élections. Les élections ne sont qu'un des éléments qui permettent de pouvoir juger si un État est démocratique ou pas.
Est-ce qu'on peut se baser sur l'organisation des élections comme élément essentiel ou caractéristique essentielle d'une démocratie?
Non, les élections ne peuvent pas être un élément essentiel. Elles sont un élément essentiel que si elles sont organisées dans un contexte de transparence, dans un contexte de liberté et dans un contexte de respect du choix de tout un chacun. Parce que lorsque vous avez des élections au Rwanda, je m'excuse, il y a des élections au Rwanda à chaque fois, mais ça ne veut pas dire que le Rwanda est un État démocratique. Il y a des élections dans toute une série d'autres pays, on ne peut pas dire que c'est véritablement ces États-là sont des États démocratiques. Et donc ça ne peut être un indice que lorsque cette élection respecte des conditions, et les conditions sont claires, liberté, transparence, équité, inclusivité. Et lorsque l'on a ces éléments-là, là on peut dire véritablement que ça devient un élément de pouvoir montrer que c'est un indice de démocratie. Mais par contre, lorsque c'est mal organisé, sans transparence, sans inclusivité, ça devient maintenant un indicateur, justement, qui prouve qu'on n'a pas avancé dans le sens de la démocratie. Les résultats de 2018, on les connaît, on sait comment ça s'est passé, et donc on s'est dit, ben oui, ce ne peut pas être, ces élections ne peuvent pas être un indice pour dire que nous sommes véritablement dans un État démocratique.
Professeur, vous restez en ligne, on va prendre pour vous les auditeurs qui sont d'ailleurs nombreux à appeler pour donner aussi leur point de vue sur ce sujet. On va prendre cette réaction de Mutombo qui nous appelle depuis Kinshasa.
C'est Thomas Lipanda Talis, depuis la ville province de Kinshasa, analyste indépendant. À mon avis, je pense que le bilan pour le processus de démocratisation en RDC est tellement négatif malgré ses 500 partis et regroupements politiques. D'autant plus que le pays a encore des problèmes de la démocratisation. Partant de ces 3 cycles électoraux passés, même ce dernier qui est pacifique, mais il y a toujours des contentieux électoraux le plus élevé. Si nous analysons parmi les 3 problèmes que nous avons eu comme dans des élections, c'est très vraiment élevé. Mais pour parler à tout ça, c'est que je peux demander, proposer au gouvernement et seulement aux partis politiques d'être au respect de la Constitution et que tout le monde, y compris le gouvernant et le gouverné, tous égaux devant la loi pour espérer à une démocratisation effective.
Brève réaction, professeur.
Oui, donc là, de manière très claire, donc l'auditeur ne fait que consolider, ne fait que accréditer ce que l'on disait, qu'effectivement les élections ne sont pas telles que la façon dont c'est organisé au Congo ne peut pas être donnée comme indicateur véritablement de démocratie. Et puisque d'ailleurs quand l'auditeur parle de 500, on n'est plus à 500, donc on a plus de presque 1000 partis politiques. Et quand on regarde de manière très claire ces partis politiques, comment ça fonctionne, on se rend bien compte que ce sont des partis politiques tribaux qui n'ont aucune idéologie et qui tournent autour tout simplement d'un seul homme. Et lorsque cet homme disparaît, eh ben, le parti aussi disparaît. Et donc on n'a pas véritablement le contexte congolais doit évoluer en lien avec les principes de la démocratie. Mais on en est encore loin. La démocratie en Europe a pris quand même plusieurs siècles avant de pouvoir se consolider à travers l'évolution du temps. Alors ici, on peut espérer que du côté congolais, que l'on voit véritablement évoluer, donc le contexte, ça veut dire la structure État congolais, va évoluer pour permettre à ce qu'il puisse véritablement y avoir un crash de la démocratie, séparation de pouvoir, liberté et surtout élection, bonne élection comme indicateur de la démocratie.
Professeur Jacques Joly, on va prendre aussi pour vous cet autre auditeur qui appelle aussi de Kinshasa.
C'est Jeannine Poy depuis Kinshasa. À mon humble avis, la démocratisation avait été saluée par le peuple congolais. Mais en voyant le nombre des partis politiques en RDC, cela prête à confusion et freine même les développements politiques et démocratiques. Et donc, cette démocratisation n'a pas été bien comprise par la classe politique. On doit juste avoir des blocs comme cela est le cas aux États-Unis, les démocrates et les républicains.
Professeur, comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, nous avons tous la même déception sur ces phénomènes. Et en fait, les dérives ou les incohérences et irrationalités de nos partis politiques sont l'épicentre, n'est-ce pas, de notre et les révélateurs de notre de nos difficultés d'avoir une démocratie crédible. Les 1000 ou autres partis politiques sont des partis atomistiques, c'est-à-dire des partis personnels appartenant à leur autorité morale ou à la rigueur à leur famille. Ce sont des partis politiques sans idéologie, sans projet, dont la seule finalité est, n'est-ce pas, la seule finalité est la conquête personnelle et l'enrichissement, n'est-ce pas, de leurs dirigeants. Et c'est ça des points désarticulants et déstructurants de notre démocratie. Mais faut-il pour cela se décourager? Je ne crois pas. Il faudra que nous puissions travailler. Parce que le vrai problème de la démocratie, c'est, au-delà de texte, c'est la pensée. C'est l'idéal qui doit animer le citoyen. Il faut savoir que la démocratie, c'est une manière de vivre. C'est dans cette manière de vivre, au cœur de laquelle l'homme, dans l'égalité, dans la liberté, va s'épanouir. Et c'est là où nous avons une grande difficulté. Notre démocratie est dévitalisée parce qu'elle n'a pas une pensée, pas simplement de gouvernants ou des acteurs, mais aussi la population. qui malheureusement devait être aidé par les partis politiques pour savoir la conscience démocratique. Mais on voit que il y a comme un phénomène de d'alignement, je dirais tribal, zoologique. Lorsqu'on voit les résultats des élections, ils traduisent plutôt un ancrage tribal, clanique, de choix qui ne sont pas dictés par un projet de société, d'où la qualité de notre démocratie est faible, mais nous devons y travailler, notamment en ayant des partis politiques dignes de ces noms. Deux partis politiques aux États-Unis, mais ça traduit d'abord la culture politique américaine. Mais chez nous, les partis politiques sont des réceptacles de tribus, des ethnies et de leurs personnes. Voilà, là il faut travailler sur la décriminalisation, qu'on ne peut pas condamner les tribus, mais il faut que la culture tribalocentrique disparaisse pour donner naissance à une vitalité idéologique et autour de la centralité démocratique.
Maître Jean Bouyou, il y a Mutombo Norius qui nous écrit depuis Kinshasa. Pour lui, le bilan du processus de démocratisation est à la fois positif et négatif. Positif parce que il observe qu'on a beaucoup de partis politiques actuellement. Négatif, le manque d'idéologie propre aux partis politiques que nous avons en RDC.
Oui, certes, le manque d'idéologie politique est caractéristique de nos régimes en Afrique. Et je pense que c'est une caractéristique, je dirais, naturelle, parce que nous ne sommes pas issus de divisions, de grandes divisions historiques entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, comme c'est le cas en Europe, ou bien ceux qui ont une philosophie socio-communiste et ceux qui ont une philosophie capitaliste. Nous sommes issus, en quelque sorte, de cet état colonial décrit tout à l'heure par le professeur Bob Kabamba, qui était en fait un État créé dans l'intérêt de l'Occident, la Belgique et tous les pays qui étaient à la Convention de Berlin. Donc, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas, de référence idéologique valable dans la société africaine. En fait, nous avons tous, en tant que Congolais, la même volonté, en quelque sorte, de vivre, de survivre face à des difficultés, après que le colonisateur nous ait plongé dans une vie donnée et qu'à un moment donné il nous ait abandonné en nous disant bon, continuez vous-même ou que nous ayons réclamé notre indépendance. Évidemment, il nous appartient après cette réclamation à nous-mêmes d'ordonner cette vie et de la tisser petit à petit avec évidemment des guerres qui ne peuvent pas manquer, mais aussi avec des consensus, avec des textes que nous respectons petit à petit au lieu d'embrouiller cela avec des mécanismes inappropriés ou jusqu'au boutiste.
Professeur, en guise de conclusion, que faire pour asseoir une vraie démocratie en RDC? Professeur Bob Kabamba.
Pour asseoir la démocratie véritablement, il faut que le contexte Congo change et évolue. C'est-à-dire qu'on arrive à pouvoir ancrer de manière très claire c'est quoi une représentation, c'est quoi faire de la politique. Et il n'y a pas que la politique qui doit exister, il y a aussi d'autres choses qui doivent exister, et ça c'est tout à fait important, ça passe par un changement radical du contexte politique congolais. Et en changeant le contexte politique congolais, on va arriver à ce que la démocratie soit mieux appropriée par les Congolais, et de cette façon-là, on pourra privilégier par exemple l'idéologie, on pourra privilégier le développement, on pourra privilégier toute une série de choses que l'on connaît dans tout régime démocratique, et pas nécessairement voter pour quelqu'un parce qu'il est de ma tribu et qu'il va me représenter, et grâce à lui je vais manger et que mon ventre va être plus gros grâce à tel ou tel député. C'est le changement du contexte politique qui est hyper important pour le Congo.
Professeur Jacques Joly, faut-il attendre des siècles comme en Occident ou en Amérique pour la consolidation de la démocratie en RDC?
Et non, madame. Vous savez, il y a un État, Haïti, qui est mieux même avant les États-Unis d'Amérique. C'est un État qui, malgré cette ancienne naissance, il faut la dire ainsi, n'est toujours pas un État démocratique. La situation d'Haïti n'est pas différente, n'est-ce pas, de Ngaba ou de Kinshasa ou d'autres pays sous-développés. La question de la démocratie, c'est un saut qualitatif, volontariste, d'une élite qui, n'est-ce pas, adhère à ses logiciels. Je vais prendre le cas en Afrique, je ne vais pas aller très loin. Vous prenez un pays comme le Ghana, eh bien, ils sont fait ce saut d'accepter la démocratie comme modèle organisationnel. Vous descendez en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid bien après que nous ayons lancé notre processus démocratique en 1994. Mais ils ont eu une élite avec en tête un certain Nelson Mandela qui a fait 5 ans. Et depuis lors, la démocratie sud-africaine s'est consolidée. Vous pouvez aller au Botswana, vous pouvez prendre d'autres pays africains, je ne veux pas prendre le Brésil ou l'autre. Donc, il faut que ce qu'on appelle la classe politique congolaise, une classe il y a, et ce n'est pas une classe politique, puisse comprendre que le choix démocratique, c'est un choix de pensée, c'est un choix de conversion aux valeurs, aux principes, l'égalité de tous. L'alternance, le pouvoir issu du peuple, le pouvoir séparé, le pouvoir équilibré, ce sont des valeurs spirituelles auxquelles, pour lesquelles on adhère. On ne peut pas aller en démocratie en ayant une pensée autocratique. On ne crée pas un parti politique pour que ce soit un parti personnel de type mandoucratique pour partager le pouvoir avec ses amis et ses parents. Mais ça doit être un outil de transformation sociétale. Et là, madame, nous sommes encore 60 ans après la recherche, n'est-ce pas, de cette classe politique et de cette population qui croit aux valeurs, aux principes d'un État démocratique.
Merci.
Nous sommes sur le chemin peut-être, mais il ne faut pas construire une démocrature à la place d'une démocratie.
Merci, professeur Jacques Joly. Maître Jean Bouillou, y a-t-il des actions à mener pour promouvoir la démocratie, selon vous?
Oui, merci bien, madame. Je pense qu'il faut partir de ce mot démocratie qui a fait couler beaucoup d'encre de salive et dire que, en résumé, que c'est quand même un système politique dans lequel la souveraineté manque du peuple. Et je suis tout à fait d'accord avec le prof Ndoli que cette souveraineté qui émane du peuple, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience collective, une prise de conscience de l'élite. Et je pense que cette classe politique, et non crasse politique, eh bien, doit pouvoir guider. Ce n'est pas seulement les intellectuels, mais c'est tous ceux qui ont un savoir social avec une volonté réellement d'aller de l'avant. Ceci implique quoi ? Implique également une production. Il faut que chaque citoyen produise. On ne peut pas aller en démocratie avec une économie où on importe tout et on n'a aucun système intérieur de production. Ça implique également que les gens soient cultivent une conscience sociale d'accepter et de se réserver. Une attitude d'aimer, donc d'amour, une attitude patriotique. Et je ne pourrais pas ne pas parler aussi d'une communion internationale, notamment au niveau de l'Afrique. Nous connaissons le même problème. Il est important, à travers l'Union africaine ou d'autres formes, de lutter ensemble pour qu'il y ait une attitude internationale qui change. N'oublions pas que l'extérieur a une emprise sérieuse sur les avancées africaines. Il peut les bloquer comme il peut les faciliter. Et il faut une lutte à ce niveau-là aussi. On ne peut pas méconnaître ce niveau. Et donc, nos populations doivent prendre conscience, et spécialement nous qui sommes au devant comme élite, si du moins nous méritons son nom, mais nous devons prendre conscience de la responsabilité historique pour que nous puissions amener le peuple au travail, à la production, au consensus social et à l'amour de la patrie.
Voilà. Merci, maître Jean Bouillou. Dialogue entre Congolais, c'est fini. Merci à nos invités d'avoir répondu positivement à notre invitation. Guy Maté était à la réalisation. Dona Madima nous a aidé à préparer ce magazine. Bob Landou était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.